Bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. L'ensemble des pouvoirs concentrés dans les mains d'un seul homme, voilà le risque que représente le projet de nouvelle constitution d'après l'ex-parlementaire haïtien Jerry Tardieu. Son point de vue dans un instant. Les enjeux de la présidentielle du 11 avril au Pérou, c'est notre dossier du jour. On l'ouvre avec Marie Normand. On entendra aussi le désarroi des migrants expulsés des États-Unis vers le Mexique. Et puis Thierry Belmont, la lutte contre le Covid s'intensifie en Martinique. On en parle ensemble dans le journal de la première dans une quinzaine de minutes.
Oui, dès demain sur l'île, les mesures de restriction seront renforcées et notamment le couvre-feu.
À tout à l'heure Thierry et bienvenue à tous. Après deux journées de manifestations massives en Haïti dimanche et lundi pour dénoncer les dérives du pouvoir présidentiel, prenons le temps à présent de nous pencher sur le projet de référendum constitutionnel voulu par Jovenel Moïse. Projet qui était au cœur de la contestation. Sur la forme, l'idée même de tenir un référendum le 27 juin constitue pour beaucoup un acte illégal car l'actuelle constitution interdit les scrutins de ce type. Sur le fond, certains témoignent de leurs profondes inquiétudes. C'est le cas de Jerry Tardieu, ancien parlementaire. Il y a deux ans, avant de quitter son poste, il avait mené une commission pour amender la loi mère d'Haïti. Il est au micro d'Amélie Baron.
Les choix qui avaient été faits par la constituante de 1987 nous avaient fait sortir d'une dictature présidentielle pour tomber vers une dictature parlementaire avec beaucoup de pouvoir mis entre les mains du Parlement pour édenter la présidence. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution que je présidais à la Chambre des députés avait l'ambition de rééquilibrer les pouvoirs. Cependant, nous constatons aujourd'hui une velléité de Jovenel Moïse de doter le pays d'une nouvelle Constitution qui va nous faire retourner à la case départ. C'est une Constitution qui met tous les pouvoirs de nouveau entre les mains d'un exécutif hyper puissant au détriment des deux autres pouvoirs qui sont les pouvoirs législatifs et judiciaires.
Notamment, effectivement, sur le pouvoir judiciaire, les juges sont nommés directement par le pouvoir exécutif. Donc, il y a une sorte de vassalisation du pouvoir judiciaire.
Effectivement, cette vassalisation, elle est palpable dans le fait que cette nouvelle proposition n'offre pas au pouvoir judiciaire la possibilité d'être partie prenante de la nomination des juges. Il y a encore d'autres aspects pour le moins difficiles à comprendre. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui se doit être un organe pouvant nous assurer d'une certaine reddition de comptes, en est réduit à peau de chagrin. Donc ça c'est au niveau du pouvoir judiciaire. Au niveau du pouvoir législatif, le Sénat est éliminé. Donc la Chambre est monocamérale et elle n'a plus l'attribution de pouvoir légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Donc tout cela mis ensemble participe d'une velléité, d'une volonté des concepteurs de cet avant-projet constitutionnel de mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un président hyper puissant qui, soit dit en passant, n'est pas responsable de ses actes puisque l'article 139 de cette fameuse nouvelle constitution nous dit qu'aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président, mais même après la fin de son mandat. Ça fait peur quand on connaît la tradition autocratique de beaucoup des régimes qui se sont succédés en Haïti pendant les plus de 200 années d'existence.
Et aussi, à noter, dans ce projet de constitution, il y a le retour d'un service militaire obligatoire à 18 ans et par ailleurs, une politisation possible de l'armée et des forces de l'ordre, ce qui n'est pas autorisé dans l'actuelle constitution.
Absolument. Que va-t-il advenir de l'armée d'Haïti? D'autant plus qu'un article fondamental, l'article qui stipulait que les forces armées d'Haïti étaient apolitiques, a été retiré. D'aucuns diront que cela va de soi qu'une armée soit apolitique, mais non. Il se trouve qu'en Haïti particulièrement, il faut que cet article soit dans la Constitution parce que, au regard de notre histoire récente et même celle qui a jalonné la vie de ce pays, on peut facilement imaginer un autocrate, un dictateur, dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années, demander à l'armée d'Haïti de prêter allégeance au pouvoir ou au parti au pouvoir.
Jerry Tardieu, au micro RFI d'Amélie Baron, à Port-au-Prince, où il est 9h14, une heure de plus, à Brasilia. Du jamais vu au Brésil, les chefs des armées de l'air, de terre et de la marine, tous ensemble qui démissionnent en même temps pour protester contre l'éviction de leur ministre de tutelle débarqué. Ce ministre, dans le cadre du remaniement d'ampleur opéré lundi par le président Bolsonaro, qui a choisi à la place un ministre de la Défense plus proche de lui. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Et c'est partout ce matin à la une de la presse.
Oui, et le journal Au Globo parle d'un choc des institutions. Les trois commandants ont clairement refusé de servir d'instrument politique, note le journal. Le quotidien Estadao, de son côté, ajoute que leur démission visait à montrer qu'ils refusaient de se soumettre à des caprices délirants d'un occupant temporaire de la présidence. C'est pour le journal, Jair Bolsonaro se prend pour Jules César alors que le pays sombre dans une crise sanitaire et économique sans précédent, avec un nouveau record de mortalité. Hier d'ailleurs, plus de 3600 personnes décédées du Covid-19 en une journée. Le virus a fait plus de 300 000 morts au total dans le pays, mais la capitale Brasilia, poursuit Estadao, est en partie entre les mains de voyous et d'adeptes de coups d'État. Pour le citoyen brésilien, cela signifie qu'il ne pourra compter que sur lui-même, conclut le quotidien.
On laisse le Brésil pour les États-Unis, Camille. Après ces 1900 milliards de dollars pour sauver l'économie de Joe Biden, le président américain va plus loin aujourd'hui avec une nouvelle méga enveloppe, un vaste plan d'investissement pour les infrastructures.
Oui, un plan de 2000 milliards de dollars sur les 8 prochaines années. Objectif, hein, rénover les routes, les ponts, les voies ferrées du pays. Un plan parmi les plus ambitieux de l'histoire des États-Unis, estime le New York Times. Et pour le financer, explique le quotidien, le président démocrate envisage d'augmenter les taxes sur les sociétés, des taxes qui passeraient ainsi de 21 à 28% sous l'ère Trump. Elles avaient été réduites de 35 à 21%.
Un plan que Joe Biden présentera tout à l'heure de la ville de Pittsburgh, la même où il avait lancé sa campagne présidentielle. Camille, d'ailleurs, une partie de la presse y voit là le coup d'envoi d'une nouvelle campagne, celle pour les élections de mi-mandat l'an prochain.
Oui, c'est l'analyse du Washington Post. Les républicains sont vent debout contre ces hausses d'impôts qu'ils s'annonceraient historiques pour le quotidien. C'est d'ailleurs un énorme pari politique que s'apprête à faire là Joe Biden, le président qui souhaite réussir là où Obama et Trump ont échoué. Et titre Politico face aux larges oppositions rencontrées contre les hausses d'impôts en général et le creusement du déficit public.
À l'ouest de Pittsburgh, Minneapolis, où se poursuit le procès de Derek Chauvin, ce policier blanc impliqué dans la mort de George Floyd l'an dernier. Les témoins de la scène s'exprimaient hier, Camille.
Oui, et c'est l'arme de Darnella Frazier, l'adolescente qui a filmé la vidéo virale du genou de Derek Chauvin sur le cou de George Floyd pendant plus de 9 minutes. La jeune fille a souligné le regard froid sans cœur du policier, relaie le Star Tribune, qui revient aussi sur le témoignage de cette femme pompier, Geneviève Hansen, qui voulait aider George Floyd.
J'aurais vérifié son pouls, je lui aurais fait un massage cardiaque. Les policiers m'en ont empêché.
Qu'avez-vous ressenti ?
J'étais complètement bouleversée.
Le procès de Derek Chauvin qui est à suivre aussi sur RFI.fr.
RFI, les voix du monde.
Il rêve d'États-Unis. Quelques centaines d'Honduriens ont pris ces derniers jours la route de l'exil dans une nouvelle caravane. Mais à peine entrés au Guatemala, ils ont déjà été dispersés. Des candidats toujours plus nombreux, malgré les opérations pour les bloquer en chemin, malgré aussi la menace d'expulsion. Une fois parvenus sur le sol états-unien, chaque jour, des familles entières de migrants se retrouvent ainsi ramenées à Ciudad Juárez, au Mexique, où est Alex Hardy pour RFI.
Ils traversent le pont et leur visage se décompose lorsqu'ils comprennent où ils sont. Hier, ils entraient aux États-Unis après un long périple jusqu'à la frontière. Aujourd'hui, ils sont expulsés sans autre forme de procès au Mexique. Jason, hondurien de 26 ans, porte son fils de 2 ans.
On nous a fait monter dans un avion, direction Ciudad Juárez, sans nous dire où on allait vraiment. On était censé aller dans un autre centre de détention américain pour continuer le processus administratif aux États-Unis. Et voilà, surprise, c'est ça la suite du processus. On se retrouve à Juárez. C'est un coup dur.
Victor, psychologue d'une ONG de Juárez, observe ce manège impuissant.
On leur a menti pour mieux les expulser. Le plus difficile pour eux est à venir. Les autorités mexicaines parlent de leur trouver un refuge, mais les centres d'accueil sont pleins à Juárez. Il n'y a plus de place.
Chaque jour, à Ciudad Juárez, des dizaines de familles avec enfants sont renvoyées en vertu d'une mesure sanitaire décrétée par Trump et poursuivie par Biden. Blanca Navarrete, défenseur des droits des migrants.
Les États-Unis ont utilisé la pandémie pour justifier une politique totalement discrétionnaire. Depuis l'élection de Biden, on entend beaucoup que les migrants peuvent en théorie à nouveau accéder à l'asile, à la différence du temps de Trump. Mais dans la réalité, du fait de cette mesure, ce droit reste inaccessible. C'est une manière de semer le trou pour mieux dissuader les migrants.
Alix Hardy, Ciudad Juárez, RFI.
Et outre la question migratoire, un autre sujet tend les relations entre les États-Unis et le Honduras. Tony Hernandez, le frère du président hondurien, est condamné à de la prison à perpétuité pour trafic de drogue par la justice américaine, Camille.
Cadena perpetua, prison à vie, titre El Heraldo, peine prononcée par un tribunal fédéral à New York. Tony Hernandez se voit aussi confisquer plus de 138 millions de dollars de biens et de propriétés acquis grâce à son juteux trafic de cocaïne. Entre 2004 et 2015, El Heraldo décrit l'ancien député dans son uniforme de prisonnier bleu, très vindicatif. La Prensa raconte qu'avant d'entendre la sentence, Tony Hernandez a critiqué la façon dont il a été défendu dans cette affaire et il va d'ailleurs faire appel. Un verdict qui fait réagir son frère, le président hondurien lui-même, Juan Orlando Hernandez, cité par El Heraldo. Ce qui vient de se passer est dur pour la famille. Je ne le souhaite à personne. Le chef de l'État, qui en a quand même aussi profité pour défendre son bilan positif en matière de lutte contre le narcotrafic et de réduction de la violence dans le pays, peut-on lire dans El Heraldo.
Camille Marigot pour la presse, merci à vous.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Et on prend un peu d'avance sur l'actualité. Dans 11 jours exactement, les Péruviens se rendront aux urnes. Bonjour Marie-Normand.
Et bonjour Mickaël.
On en parle ensemble de ces élections au Pérou qui visent à élire entre autres les 130 députés du Congrès et aussi le président de la République. Peut-être Marie, la fin d'une crise politique qui dure depuis des années dans le pays.
Oui, rappelez-vous Mickaël, il y a quelques mois en novembre, le Pérou a connu 3 présidents différents en seulement une semaine. Le président Martin Vizcarra, qui se présentait comme le champion de la lutte contre la corruption, a été destitué par le Congrès. Des dizaines de milliers de Péruviens sont descendus dans la rue pour protester, des jeunes surtout. Ce mouvement a été brutalement réprimé par la police. Il a poussé le remplaçant de Martin Vizcarra à démissionner à son tour. Et c'est finalement Francisco Sagasti qui l'a remplacé. Il est toujours aujourd'hui président par intérim.
Une crise politique qui n'est pas nouvelle. Hein. Elle a même germé au début des années 2000, à la fin, en fait, Marie, du régime autoritaire d'Alberto Fujimori.
Oui, mais cette crise, elle s'est exacerbée encore depuis les élections de 2016. C'est ce qu'estime le Péruvien Gustavo Pastor, docteur en études politiques à l'EHESS. Ces élections qui ont donné lieu en 2016 à une lutte de pouvoir entre la présidence et le Congrès, résultat de grandes difficultés à gouverner.
Presque tous les gens qui ont été élus en 2016, aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Et au milieu de tout ça, il y a une série d'affaires de corruption qui a permis quand même de voir comment fonctionnait la corruption politique au Pérou. C'était comme un tsunami. Et tout ça a fait que les Péruviens sont très mécontents du système politique. Ils ne savent pas s'ils peuvent y faire confiance à qui que ce soit parce que toute la classe politique est impliquée dans ces affaires.
Et parmi les affaires de corruption, bien sûr, Marie, il y a le scandale Odebrecht.
Oui, scandale de pot de vin versé par une entreprise de BTP brésilienne dont l'onde de choc a touché toute l'Amérique latine. Qui élire aujourd'hui alors que tous les anciens présidents péruviens sont poursuivis pour corruption ou sont en prison? Des dizaines de parlementaires également sont poursuivis.
Tout comme certains candidats à la présidentielle donc du 11 avril.
Oui, à droite, par exemple, la candidate Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori, en prison, qu'elle promet d'ailleurs de gracier si elle est élue. Elle se présente pour la troisième fois et justement, elle est poursuivie, Michael, pour financement illégal de ses campagnes précédentes. Elle a dû obtenir un permis spécial d'ailleurs pour sortir de Lima et faire campagne à travers le pays. Autour d'elle, il y a d'anciens ministres, d'anciens membres du Congrès. Bref, pas vraiment de renouvellement de cette classe politique et cette offre de candidats déçoit les Péruviens, selon Gustavo Pastor.
Il n'y a pas de candidats favoris. Le premier dans les sondages, il a à peine 11%. Et les gens qui n'ont pas décidé leur vote, ils oscillent entre 30 et 50%.
Des indécis, donc, pas de favoris, si bien Marie que les 6 premiers candidats sont en fait dans un mouchoir de poche.
Alors en tête actuellement, il y a Diony Lescano de centre droit, décrit par ses critiques comme un populiste. Juste derrière, Rafael López Aliaga, candidat d'extrême droite, qui aime se faire appeler le Bolsonaro péruvien. Il n'existait pas il y a encore quelques mois. Et et il pourrait bien être au second tour. Il est talonné par une candidate de gauche, Veronica Mendoza. En tout, 18 candidats à la présidentielle, un morcellement des candidatures, des partis qui touche aussi le Congrès depuis les dernières élections.
Ça, ça donnait beaucoup d'instabilité aussi, parce que c'est très difficile avec 20 ou 15 partis au Parlement de se mettre d'accord. Ça fait une très grande instabilité et un très grand désarroi. En fait, les Péruviens, chaque élection, il y a plus de gens qui votent nul et ça risque de continuer en fait.
Le vote blanc qui est autour de 20% selon le dernier sondage, Mickaël, et qui est donc en tête des intentions de vote pour le moment.
Et puis l'autre grande inconnue, ce 11 avril aussi, Marie, c'est l'abstention.
Oui, normalement le vote est obligatoire au Pérou, mais certains électeurs pourraient préférer payer une amende cette année que de se rendre dans les bureaux par peur du Covid. Le Pérou, c'est l'un des pays les plus durement touchés par le virus. 5 ministres de la Santé se sont succédés depuis son apparition. Actuellement, le pays est et sous cloche, magasins fermés pour Pâques jusqu'au 4 avril. Le coronavirus, c'est bien sûr avec le thème de la corruption dont on parlait tout à l'heure, l'un des grands thèmes de campagne. Les candidats débattent notamment de la production d'oxygène localement, alors que le pays connaît de graves pénuries et que les familles, on le sait, doivent faire la queue plusieurs jours pour obtenir des recharges pour leurs proches.
Et à quel point cela pèsera-t-il sur le scrutin ? Réponse donc le 11 avril. Merci Marie. Le Covid dans les Antilles, c'est à présent à la une du journal de l'Outre-mer. Avec vous, Thierry Brémond, le renforcement des nouvelles mesures de restriction entre en vigueur dès demain, jeudi, en Martinique.
Une nécessité, oui, une nécessité pour les autorités à cause de la troisième vague de l'épidémie, plus agressive que les précédentes à cause des variants. Le préfet de Martinique, Stanislas Cazel, s'est même adressé en créole à la population. « Bagaille la chaux, c'est ensemble nous qui rivez », a-t-il dit, traduisez. « L'heure est grave, c'est ensemble que nous nous en sortirons ». À partir de demain et pour 3 semaines, plus de salles de cinéma et de spectacles. Finit aussi les restaurants, une mesure plutôt mal vécue par les professionnels de la restauration. Écoutez ces quelques réactions.
On subit entre guillemets, donc on va s'adapter, on va retourner à la vente à emporter et voilà, on n'a pas le choix. Parce qu'on est la bête noire. Du Covid, on est la bête noire. Nous, les restaurateurs, on dirait que si nous, on n'existe pas, il n'y aurait pas de Covid en fait. Donc pas de vaccin, ça serait la fête.
Votre personnel, c'est un chômage technique.
Chômage partiel, ouais.
Vous les payez pendant ce temps?
Oui, on les paye. Il faut bien les payer. Hein. Payer le loyer, il faut payer les employés. Clairement, c'est tout le temps les premières personnes qu'on pénalise, c'est être les restaurateurs. Donc oui, alors qu'on essaie de faire au mieux pour mettre toutes les normes qui nous ont imposées, les gestes barrières, etc.
Une réaction au micro de Jean-Baptiste Anatole, Martinique la première. Par ailleurs, le couvre-feu, déjà en vigueur de 22h à 5h, passera à 19h. La campagne de vaccination va aussi s'intensifier en Martinique. Le premier vaccinodrome a ouvert ses portes ce matin. Jacques Rosine, le directeur de la santé publique à l'agence de santé de Martinique.
Il y a ce centre de vaccination de grande capacité qui ouvre au des sports du Lamantin, en lien avec la mairie. Bien sûr, il sera tenu par le service des pompiers. Ce centre est ouvert, sera ouvert donc 7 jours sur 7, même pendant les vacances de Pâques. Parallèlement, d'autres centres qui existent déjà, notamment celui du CHU, sera ouvert, en tout cas certains jours. Le centre de l'aéroport aussi sera ouvert 7 jours sur 7. Donc la vaccination ne s'arrête pas malgré les jours fériés.
Le directeur de la santé publique en Martinique était avec Fabrice Théodose. En Guyane, le décès d'un artiste et chef d'entreprise engagé, Pierre Ray, alias Kiko, a succombé à la Covid-19 à l'âge de 54 ans. Sa disparition a ému de nombreux Guyanais. Corinne Bergeron.
Son nom était Pierre Ray, mais tout le monde l'appelait Kiko. À son évocation, on pense forcément au reggae et surtout Blackwood, ce groupe mythique de la Guyane dont il était l'un des membres fondateurs, une histoire de famille et d'amitié. On connaissait aussi Pierre Ray, le chef d'entreprise qui voulait développer son pays. Artisan minier, il militait pour le droit de travailler dans le secteur aurifère et pour l'obtention d'autorisations d'exploration, un combat qu'il a plusieurs fois opposé aux autorités. Évoquer Kiko, c'est aussi penser à sa fille Mélia, à la voix d'or, une voix qui impressionnait le jury et le public du concours The Voice et qui faisait le bonheur et la fierté de son père.
Corinne Bergeron, Guyane la Première. Et c'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Thierry Brémond, à vous et aux équipes de la Première. Ainsi se termine notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Retrouvez bien sûr sur RFI Pure Radio en podcast et via les réseaux sociaux, notamment Twitter, @RFI Amérique. Je vous dis à demain. Très bonne journée à tous.
Tout à l'heure sur RFI, vous montrez.